semaine, dans la lorgnette, nous plongeons dans un monde de silence. Un monde si proche et pourtant si loin, car nous côtoyons, parfois sans le savoir, tant la qualité et la taille des appareils facilitent la vie de ceux et celles qui les portent, nous côtoyons tous et toutes des personnes sourdes ou malentendantes. La surdité reste une barrière importante dans le monde social. Parler, entendre, répondre, oui, mais sans parole. Heureusement, des associations militent et œuvrent pour démocratiser la langue des signes. C'est le cas de Nos Mains Vous Parlent, association présidée par Carole Fouché, que je reçois aujourd'hui. Bonjour Carole.
Bonjour.
Donc comme je le disais, alors il y a évidemment, on va traiter de la thématique de ce monde-là, et puis d'essayer de traduire à la radio ce monde effectivement qui manque de son, et nous on fait un métier de son, donc ça va être une discussion passionnante. Alors est-ce que déjà vous pouvez présenter du coup l'association, quel est son projet, quelles sont ses actions?
Donc l'association Nos Mains Vous Parlent est une association de parents d'enfants sourds ou malentendants, dans le but de pouvoir aider les parents en situation avec un enfant en situation de handicap auditif, de pouvoir faire remonter les problématiques que nous on rencontre en tant que parents au niveau scolaire, au niveau administration, et de dire attention, on a besoin d'aide. Il faut qu'on trouve des solutions, mais pas que, parce qu'on a aussi besoin d'un lieu d'écoute, parce qu'on se sent un peu isolé dans ce monde de silence, comme on peut dire. Et quand on est parent et quand on est touché par la surdité, on se prend une claque. C'est très compliqué, il faut apprendre à vivre avec et trouver des choses, des adaptations, pour tout, hein, pour la télé, pour expliquer un exercice de mathématiques, hein. Et du coup, moi j'ai appris la langue des signes, parce que ma fille est malentendante.
L'association s'est créée dans cet objectif-là.
Dans cet objectif-là, oui, ça a été une association. Cette association a été créée avec le cœur, avec des personnes qui sont concernées par la surdité. On m'avait lancé un défi en 2019. J'ai relevé le défi. Et à l'époque, j'avais trouvé deux autres personnes pour créer l'association, il fallait être trois. Donc ça a été l'élément déclencheur. Et puis après, on a continué notre petite activité à grandir un petit peu, à essayer de se faire connaître. Puis le Covid est arrivé, donc ça nous a un petit peu embêtés. Mais on a continué.
Votre fille a plus de 4 ans. Comment vous avez évolué? Comment vous avez travaillé la question avant la création de l'association? Il y a, j'imagine, d'autres structures. Vous étiez peut-être adhérente ou vous travailliez dans d'autres structures. Il y avait une structure médicale qui vous accompagnait. Vous étiez livrée à vous-même, entre guillemets.
Alors, au départ, on a été livrée à nous-mêmes, puisque la maladie de ma fille, c'est une maladie génétique qui entraîne une surdité qui est fluctuante. Et qui est une maladie rare, voilà, qui c'est un cas sur 1 million, et ça nous tombe dessus, donc forcément, voilà. Pas décelé à la naissance, puisque la maladie de ma fille a été évoquée en 2018, réellement pointée en 2018, mais
quel
évoquée...
Quel âge a votre fille pour qu'on...
Elle a 13 ans, aujourd'hui.
D'accord, ok. Donc,
bientôt 14,
elle avait 7-8 ans quand la maladie a été diagnostiquée.
Elle a été diagnostiquée à l'âge de 18 mois, mais malheureusement, d'accord, on ne l'a pas su.
Ouais.
C'est les rouages administratifs, hein, j'ai tapé du poing sur la table en disant stop, elle n'entend pas, il y a des choses qui vont pas, une règle
donc
en fer,
vous saviez
elle
depuis
pas.
Assez longtemps.
Moi je l'avais remarqué déjà depuis longtemps qu'il y avait une problématique, elle a fait des otites étant petite, donc otite, on mettait ça sur le dos des otites, elle a eu des aérateurs tympaniques, elle est opérée à plusieurs reprises. Jusqu'au jour, elle a eu aussi... je vais écorcher le nom et j'en suis désolée. C'est un cholestéastome. Oh, j'ai réussi. c'est comme une greffe de tympan, un petit peu. Voilà. Et auparavant, je disais au médecin, mais j'ai un problème, ça va pas. On a décidé du coup d'aller faire un diagnostic à tour. Ouais. Et là, le diagnostic est tombé. Il y a une surdité fluctuante avérée. Et là, c'est le coup de massue. Parce qu'on s'y attend pas, même si on s'y attend, on s'y attend pas. Mmh. Et là, c'est mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? À l'école, c'est compliqué, elle est mise à l'écart, elle a subi la maltraitance, mais verbale, ce qui est le plus violent chez un enfant. Mais malheureusement, c'est pas la seule dans ce cas-là. Il y en a d'autres. C'est pas isolé, hein, faut le savoir. Cette question de faire cette association-là, elle me trottait déjà dans la tête depuis déjà quelques temps. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir me former à la langue des signes, parce que ma fille avait appris quelques mots en langue des signes grâce à une instite. Voilà, super. qui m'a dit, mais il existe une liste des troubles des fonctions auditives sur Blois, chose que je ne savais pas. L'orientation des maisons départementales des personnes handicapées nous avait dirigé autrement. On avait une méconnaissance de cette structure et ça a été jour et nuit quand ma fille est rentrée dans cette école. En fait.
J'imagine, oui.
Et elle est rentrée qu'en 2017 dans cette école. Donc on a perdu énormément de temps.
Bien sûr.
Et quand j'ai rencontré le médecin à Tours, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant voilà, enfin il y a quelques années en arrière, hein, elle avait 8 ans. Il me dit écoute, on va essayer, on va faire un test d'appareillage auditif. Et alors là, c'était un 16 décembre. Je m'en souviendrai toujours parce que je pleurais comme une gamine pleure voilà, devant quelque chose dans la galerie marchande d'Auchan. Hein, parce que ma fille met pour la première fois ses appareils et elle me dit « Maman, tu entends ?» J'ai dit « Tu entends quoi ?» Elle me dit « Maman, j'entends la musique dans la galerie. » Et avec mon mari, on s'est regardé
garçon,
et là, forcément, comme tout parent, bah, voilà,
ouais.
Je suis encore un peu, voilà, rien que de l'évoquer, ça remonte. Mais de la voir avec des yeux, des étoiles dans les yeux, c'était... voilà. Alors attention, un appareil auditif ne remplace pas une audition normale.
Hein. Bien sûr, on va
c'est vraiment
revenir,
améliorer
le sujet.
Voilà, c'est vraiment améliorer la qualité du son, mais ça ne remplacera pas une oreille.
Donc pour travailler cette émission, je me suis un peu renseigné. Il y aurait, voilà, les chiffres sont fluctuants et puis il y a peu d'études qui permettent de diagnostiquer et d'avoir des chiffres fiables, mais aux alentours de 5,5 millions de Français et de Françaises qui présentent un défaut d'audition moyen à très grave. Voilà, donc j'ai pris la partie la plus haute. Voilà, les chiffres que j'ai trouvés sont divisés avec des limitations auditives fonctionnelles d'audition, hein, LFA je crois ça s'appelle. Et donc il y a léger à moyen, moyen
sévère
à grave
et sévère,
voilà, exactement. Donc là on est sur 5,5 millions qui ont des défauts d'audition moyen à très grave, et parmi ces 5,5 millions, 360 000 ont une limitation fonctionnelle d'audition. Voilà, c'est ça, très grave ou totalement.
Tout à fait.
Donc votre fille est dans ce cas-là.
Elle est dans la légère et la moyenne, en fait.
D'accord,
comme
okay.
C'est une fluctuation. Bon là, malheureusement, on vient d'avoir une nouvelle donne comme quoi elle a perdu de l'audition encore à droite. Mm-hmm. Donc là, elle rentre vraiment dans la catégorie, elle commence à rentrer dans la catégorie moyenne. À long terme, on ne sait pas ce que ça va donner.
Bien sûr.
Puisque comme toute maladie génétique rare,
ça évolue.
On ne peut pas savoir. Elle peut devenir sourde d'un jour à l'autre. Pour ça qu'on a appris la langue des signes, qui est une seconde langue, qui est une merveille à découvrir.
Oui, évidemment. Et bien, du coup, puisqu'on en parle, on va diffuser un petit sujet, puisque Studio Joseph y était, et vous aussi, au Forum de l'engagement associatif samedi dernier. Vous avez dispensé un atelier auprès du public lors de cette journée. Et donc, notre micro s'est glissé dans cet atelier. Je vous propose d'écouter un petit compte-rendu, en tout cas une immersion dans l'atelier.
Donc voilà, je vais vous initier, si vous voulez, à la langue des signes, vous apprendre quelques petites choses. Donc tout simplement, on va dire bonjour. Donc on a la main qui est fermée devant nous, comme ça, et ça va être au niveau de la bouche, et on va dire bonjour. Et les enfants, ce qu'ils adorent, c'est celui-ci, ça c'est le gâteau. C'est le point avec le pouce, là, et on tape sur le côté de la joue, c'est gâteau.
Gâteau.
Et encore. Gâteau, encore. Encore, c'est dans la main, on tape dans le creux de la main, en fait. Encore.
Comme ça, avec les...
Comme ça, encore.
Merci.
Encore. Quand on apprend à signer, dans les cours de langue des signes, la première chose, c'est d'apprendre l'alphabet. Donc, en langue des signes, ça s'appelle la dactylologie, parce qu'on le fait avec les doigts. Donc, par exemple, quand on va dire « je m'appelle », ça va être... On va faire ça. Donc, ça veut dire « je m'appelle ». Et puis, après, on va signer notre prénom. En fonction, donc là, moi je m'appelle Carole, donc le K, le A, le R, le O, le L et le E. Et mon signe à moi, c'est celui-ci. Parce qu'en fait, un sourd ne va pas désigner la personne avec le prénom toujours en dactylologie. La personne va avoir un signe qui va être attribué en fonction de plein de choses. D'ailleurs, celui-là qui porte des lunettes, par exemple, je sais pas, je dis un prénom, Camille avec le C, ça peut être Camille comme ça, parce qu'elle porte des lunettes, par exemple. On va taper au niveau de l'œil en faisant la forme des lunettes. Celui-là qui raconte que des blagues, ça peut être son signe de les bêtises, les blagues, ça peut être ça. Un pompier, ça peut être le pompier, ou bien quelqu'un qui a toujours la casquette, donc on va faire le signe de la casquette sur la tête. Ça va refléter la personnalité de la personne en elle-même, ou ce qu'elle aime, ou ses ressentis. En général, c'est les sourds qui nous le donnent.
Est-ce que tu dois savoir faire l'alphabet des deux mains ?
Non, si t'es droitier, tu restes droitier. Si t'es gaucher, tu restes gaucher. Tout dépend. Enfin, tout dépend comment tu signes. Enfin, si quelqu'un est ambidextre, il va servir des deux mains. D'ailleurs, qu'on peut faire des deux côtés. La façon de positionner ses mains, la façon, le contexte va être différent. Donc, il va y avoir différents signes qui vont être identiques, mais qui ne veulent pas dire la même chose. C'est la complexité de la langue des signes, mais ce qui est très intéressant. Mais c'est comme chez nous. Dans les certains patelins, ils ont leur propre signature.
Comme nous, selon les régions.
Tout à fait.
On parle le breton, ou on parle l'oc, ou on parle...
On va un peu plus loin, on va dire, tiens, Sacré-Belle-Nodie, on va avoir un acadio, par exemple, voilà. C'est du solonio. Voilà, ça veut dire, là, il y a une trompe d'eau qui va arriver. Enfin, voilà,
c'est le langage.
Et voilà, c'est le patois en langue des signes.
Mais alors, par contre, en anglais.
En anglais, c'est une autre forme de langue des signes.
Ah, c'est une autre forme.
La langue des signes, elle n'est pas universelle.
C'est dommage. J'avais ça dans l'idée.
Non, parce que vous avez... nous, on va dire bonjour et ça va être bonjour.
Non, là, j'ai idée, mais je pensais que c'était universel.
Oui, on aurait pu croire.
Ah, oui, parce qu'au moins, il n'y avait pas de prononciation.
Au moins, il y avait, parce que hier, ça reste hier, demain, ça reste
yesterday,
demain.
Ça reste demain, mais voilà,
oui,
selon.
Entre hier et yesterday, c'est toujours le même.
Bah oui,
mais peut-être que comme on perçoit les choses différemment, ils arrivent à s'adapter.
Il y a les idées.
Les idées sont là, en fait, ils vont directement à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va donner une information X ou Y, il y a le feu quelque part, c'est le feu il est là. Alors, quelqu'un qui envie, nous on dit oh excusez-moi, je dois aller au petit coin, eux c'est moi toilette aller. Hein.
Voilà.
Ou d'autres choses, mais je peux pas me permettre de le dire parce que c'est pas très correct.
Il y a à peu près combien de sourds en France?
À peu près, hein, à la louche.
On peut pas donner un chiffre exact parce que malheureusement dans certaines familles ça reste encore tabou, ça reste encore une tare. D'être sourd, c'est... faut pas que ce soit vu, faut pas que ce soit entendu. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette association. Et puis, l'association, elle est là aussi pour faire remonter un peu les problématiques qu'on rencontre au niveau scolaire, mais au niveau administratif aussi, parce qu'il y a beaucoup de loupés. Et de dire, mais on a des enfants, on n'a pas des objets. Il manque des structures, on a besoin de structures pour les enfants sourds. On va pas tous les envoyer à l'Institut Régional des Jeunes Sourds d'Orléans, c'est pas faisable, ou l'IRECOF de Tours, parce qu'il n'y a pas que ça qui est associé. Mais comme les enfants ont tous un degré de surdité différent, on n'est pas dans les mêmes cases, donc c'est difficile.
Et dans le Loir-et-Cher, il y a toujours pour les petits, parce que moi,
c'est Raphaël Perrier.
Oui, parce que moi j'ai
c'est la seule école qui a une liste des fonctionnalités.
Il y a toujours qu'une. Parce qu'il y avait des enfants qui étaient Saint-Aignan tous les jours.
Il n'y en a qu'une. Et en collège et lycée, il faut savoir que dans l'agglomération de Blois, il y en a zéro.
Ça ne suit pas, oui.
Non. Moi, ma fille est scolarisée à Tours. Mmh. Enfin, voilà. Pourquoi la langue des signes n'est pas reconnue correctement? C'est dommage. Et ça manque. Ça manque. Hein. Vous allez à Toulouse, les choses sont super faites pour les gens qui habitent Toulouse, parce qu'il y a une population énorme de sourds. Montpellier, pareil. Poitiers, c'est pareil. Mais dans les autres régions, Paris, il y a aussi plein de choses. Mais dans les autres régions, à côté, c'est un peu différent. Comme a dit Victor Hugo, hein, je vais reciter ma belle phrase, hein, mais elle est trop belle. Hein, c'est la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit.
Oui.
Et c'est une réalité. Il y a une autre phrase aussi, mais je ne l'ai pas trop retenue, auquel il parle aussi de la surdité. Et en gros, ce n'est pas la surdité qui fait l'intelligence de la personne, en fait. Qu'importe la surdité de l'oreille quand l'esprit l'entend, la seule surdité, la vraie surdité, la surdité incurable, c'est celle de l'intelligence. Et c'est Victor Hugo qui l'a écrit.
C'est
bon. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.
Voilà, sujet réalisé par Clémentine de Studio ZEF, qu'on remercie. Donc cet atelier a permis de sensibiliser et d'échanger. On voit qu'il y a des échanges nourris.
Oui,
beaucoup de
très nourri. Ouais.
Beaucoup de questions, notamment, donc, comme on le disait, au niveau de la langue des signes. Moi, ce qui m'a frappé, alors je le savais avant d'entendre cet atelier, mais ça reste assez dingue. Et en même temps, vous allez peut-être me dire le contraire, que la langue des signes, contrairement à d'autres langues, le braille, etc., est assez spécificité nationale. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une langue des signes universelle pour l'ensemble de la planète.
Non, parce que chaque signe est différent, mais
Mais je dirais que, comme nous, hein, on arrive à, ils arrivent à se faire comprendre, il n'y a aucun souci.
Ouais.
Que ce soit qu'ils partent à l'étranger, mm-hmm. En Europe et tout. Justement, c'est ça qui est enrichissant, qui est nourrissant. Nous, quand on va, je sais pas, en Angleterre, on va apprendre aussi. Mm-hmm. Bah là, c'est la même chose, en fait. C'est une seconde langue à part entière. Donc, voilà, il va y avoir des similitudes, il va y avoir des choses. Nous, quand on n'arrive pas à se faire comprendre, on utilise aussi nos mains. Hein.
Oui, bien sûr.
Enfin, ouais. Et c'est là où c'est très enrichissant parce que, par exemple, il y a 10 façons de dire maman selon les régions. Pareil, il y en a plusieurs sortes aussi. Après, il y a des choses qui ne sont pas possibles de traduire en langue des signes. On ouais. va directement à l'essentiel. Mais il y a une similitude. On va retrouver toujours une similitude dans les gestes. Après, on arrivera toujours à se faire comprendre, voilà, parce qu'ils ont un panel qui est énorme. Hein. Il y a, je sais pas combien de signes. Hein.
Oui, j'imagine. Surtout si vous me dites qu'il y a 10 façons de dire maman, on peut supposer que c'est valable pour énormément d'autres mots.
Tout à fait.
On va parler de différentes strates, des différents états de surdité. C'est bien diagnostiqué la surdité à la naissance ou pas?
Pas toujours.
Pas toujours.
Pas toujours. Il y a des loupés, hein, comme toute maladie, tout handicap.
Ouais.
Il peut y avoir, mais l'audition, la surdité ne peut apparaître à la naissance, mais peut apparaître au cours d'une vie aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans le BTP, par exemple, avec les machines,
pareil,
les bruits...
Les fameuses stats que j'ai récoltées, effectivement, voilà. Disaient que les hommes étaient plus soumis à la surdité,
à
notamment en fin de vie, en tout cas en vieillissant, puisque plus d'hommes travaillent dans les milieux du BTP, des travaux, et que c'était une atteinte forte à leur audition.
Il faut dire qu'il y a 20 ans, les protections n'étaient pas les mêmes que maintenant.
Ouais.
C'est-à-dire que quelqu'un qui travaillait en usine, il n'y avait pas forcément de protection... parce que ça passait à l'as, hein, quelque part.
Ouais.
Moi, j'ai le cas à la maison. Hein. Mon mari a travaillé en usine et aujourd'hui est appareillé puisqu'il entend moins bien d'une oreille. Mm-hmm. Comme il dit, je retrouve un semblant d'audition, mais il y a une habitude à prendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malentendant, faut lui parler en face.
Mm, bien sûr.
C'est bête, hein. Mais ils commencent à faire la lecture labiale. Pour certains, on voit le regard qui descend sur les lèvres. On se dit, lui, tiens, il fait la lecture labiale parce qu'il y a peut-être un souci. Bon, après, moi, je suis sensibilisée dessus, donc forcément, je les repère rapidement. Voilà, moi, si je sais que si je parle dans le dos à mon mari, il ne m'entend pas.
Mm.
Il ne m'entend pas. Ma fille, c'est pareil. Hein. Elle peut être de l'autre côté de la pièce, je peux l'appeler... Moi, je vais avoir une extinction de voix, mais pas elle. Hein.
Mmh. Les appareils, ils sont, j'imagine, enfin, la technologie évolue très souvent,
oui.
Très vite. Il y a des progrès tous les ans, j'imagine, ou en tout cas régulièrement. Mais ils ne peuvent pas rendre. Alors, je ne sais pas s'ils ont vocation à rendre une audition correcte, on va dire au moins. Ils ont vocation à appuyer, à accompagner, ou vraiment à rendre. Est-ce que un appareil peut faire entendre un sourd total?
Un sourd profond, non.
Non.
Non. Non, parce que vous avez dit, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a différents degrés,
de surdité,
il y a différents stades. Donc le premier, c'est la surdité dite normale.
Ouais.
C'est comme vous et moi entendons.
Ouais.
Ça va être après la surdité légère, où là, par exemple, on va dire, vous avez rendez-vous chez le docteur, mm-hmm. Eux vont entendre, ou a et rendez-vous au doteux.
Mm.
Après, on a la surdité moyenne, la même phrase, ça va faire au et au doteux. Voilà, ça va être un peu saccadé.
Et ainsi de suite.
À partir de la sévère, là, ça va être du bruit de fond. Mm. Et à partir de la profonde, là, il n'y a plus aucun son, il n'y a plus rien qui passe, en fait. Il n'y a que les vibrations qu'on va sentir. Donc, c'est vrai que ça améliore la qualité de vie, mais ça ne remplace pas l'audition.
Pas l'audition.
Contrairement à ce qui est dit. Donc, il y a différents types. Hein, les appareils intra-auriculaires, donc directement dans l'oreille, avec derrière aussi, on peut voir l'appareil, ou les petits, comme ils font maintenant, très, très discrets, dans l'oreille directement. Après, il y a les implants cochléaires, mais là, pour les implants cochléaires, c'est plus un ORL voilà, de donner les attenants et les aboutissants de ces styles d'appareils, puisque je ne pourrais pas prétendre ORL, et encore moins donner des indications dessus.
Revenons à votre association. Quelles sont ces quelles actions met-elle en place pour sensibiliser, pour accompagner aussi, j'imagine, des parents qui viennent vous solliciter, qui se retrouvent confrontés à la surdité, soit voilà de leur nourrisson, soit des fois effectivement après un diagnostic plus tardif de la surdité ou de la perte d'audition de leurs enfants.
Alors jusqu'à présent, nous n'avons pas pu à cause du Covid faire les choses comme on aurait le souhaité et comme tout le monde. Mais on a le projet de pouvoir faire des ateliers intergénérationnels, entendant sourd, de façon à faire cette complicité dans les jeux ludiques, avec un, je sais pas, un memory langue des signes, un memory avec des signes, un jeu de cette famille. Voilà. Et puis faire aussi de la sensibilisation donc auprès de structures, ceux qui souhaitent nous solliciter, on est prêt à venir sensibiliser. Alors attention, on ne remplacera pas ce qui existe déjà. On viendra simplement en complémentarité. Et en tant que moi, parent d'enfants sourds ou malentendants, voilà, de sensibiliser en étant témoin, voilà, en disant bah, vous avez différents types de surdité. Voilà comment on peut approcher quelqu'un qui entend moins bien ou pas du tout. Voilà la façon d'agir, rester en face, rester naturel, parler normalement. Voilà, puis ça va se faire au fur et à mesure. Nous, on a envie de créer ce lien de sensibilisation. On a réalisé là, au Jardin des Familles, il n'y a pas longtemps, à l'espace Mirabeau, on avait été conviés. J'étais impressionnée et à la fois très émue parce que c'était auprès d'enfants. On avait nos petits jeux et tout, et on avait apporté des casques qui réduisent la sonorité. Et j'ai une petite fille qui met un premier casque et qui me dit « Oh, elle dit, on n'entend pas beaucoup hein, le bruit des vents dans les feuilles. » J'ai dit « Oui, tu vois, il y a des enfants qui n'entendent pas toujours, toi, un klaxon, quelque chose, voilà. » Ah, ils font comment ?» J'ai dit « Voilà, ils font comme ça, ils font comme là, voilà. Je vais t'expliquer, viens, on va rentrer à l'intérieur, ce sera plus facile pour que je t'explique. » Et puis elle me dit, je peux essayer le deuxième casque. Là, vraiment, le son est encore
bouché,
plus diminué.
On avait bouché les trous.
Alors, plus diminué, encore plus, parce qu'on a différents degrés. Et là, on ressort, on refait le tour comme on avait fait. Et elle me dit, ah, mais là, tout à l'heure, j'entendais le bruit des feuilles, le vent dans les feuilles, et là, j'entends plus. Mais ça veut dire qu'il y a des enfants qui n'entendent pas les mamans crier. Alors, je dis, pourquoi tu dis crier ? Parce que quand on est grondé. J'ai dit, oui, ce serait bien pour ça. Tu vois. Et donc, du coup, ça nous a fait rire. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que les enfants atteints d'une surdité, peu importe le degré, ne pouvaient pas entendre tous les sons. Donc là, elle parlait de la maman qui criait, donc c'était très drôle, mais par exemple, la télé, la musique. Et là, elle me dit, mais comment ils font pour entendre la musique ? Je dis, tu sais, ça existe, c'est ce qui s'appelle le chant signe. Et je dis, écoute, je te donne le nom de quelqu'un qui est Letty du chant Signe & Move. Et je dis, va voir sur YouTube et sur Facebook, tu vas trouver, tu vas voir ce que c'est le chant Signe. Et elle me dit, mais ils entendent la musique. J'ai dit, en fait, la surdité fait que on a perdu une ouïe. C'est comme quelqu'un qui perd la vue va trouver un autre sens. En perdant l'audition, c'est d'autres sens qui vont un peu plus.
Le cerveau rapatrie les capacités vers,
d'autres sens. Donc les vibrations, le battement, quand on entend le poum, 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 poum dans une musique, c'est le rythme de la musique. Donc c'est vraiment, on sent ce rythme-là. Moi, ma fille, elle prend un ballon et elle le met au niveau de l'enceinte et elle sent les vibrations parce que le ballon, il bouge. Et c'est très impressionnant. On vit la musique autrement. Mais voilà, ils peuvent danser, ils peuvent chanter, ils peuvent conduire, voilà, ils peuvent faire plein de choses.
Vous me faites des transitions trop de trouver, Carole. On va faire une pause musicale avec un morceau justement d'une chanteuse, d'une artiste, d'une jeune artiste qui a fait œuvre, qui a témoigné de sa surdité. Évidemment, on écoute Oshi avec Fais-moi signe.
Bonjour mademoiselle, c'est votre ORL. Je viens de recevoir vos résultats et j'ai pas de très bonnes nouvelles. Vous avez déjà perdu 50% d'audition sur les deux oreilles. J'ai peur que vous ne puissiez pas faire ce métier toute votre vie. Appelez-moi.
Sur un malentendu, j'ai fait la sourde oreille. Peur du silence imprévu, de dépendre d'un appareil. Y'a comme un vide absolu qui qui n'a de pareil que le vide absolu. Sur un fil tendu, j'ai marché pour pas me perdre. Prise au dépourvu, chaque concert est un combat avec moi-même. Chaque concert est un combat avec moi-même, comme une arène. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Je vous jure, je suis tout oui. Nous-mêmes, je vous assure que chacun de vos cris, à chaque fois, je les capture. Jamais je n'oublie, par peur qu'ils deviennent des murmures. Des murmures. Face à vous, je tremble, accroché au micro. Je sens mon corps se fendre et je retire mes mots. Mes vertiges m'étranglent, peur de tomber de haut. Faites que je finisse ce morceau. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson.
C'était Oshi avec Fais-moi signe. Carole, on en parlait pendant la diffusion du morceau. Alors déjà, cette version est très poignante. C'était donc une performance, puisqu'elle était accompagnée d'une traductrice en langue des signes sur la scène des Victoires de la Musique en février dernier. Donc c'est une vraie performance. On sent que Oshi, donc, qui est touchée de surdité partielle, vit pleinement la chanson qu'elle chante. J'imagine que des artistes aussi qui médiatise ce handicap, cet état, c'est intéressant aussi pour valoriser vos actions.
Ouais. C'est très intéressant et du coup ça me permet de faire un tremplin.
Mais, oui, allez-y.
Nous on organise là samedi 1er octobre une journée sur la surdité qui s'appellera Communiquer autrement. Et on a la chance d'avoir Letty de Signe & Move qui est vraiment la chansigneuse qui fait des prouesses et des performances vraiment magnifiques. Voilà, c'est une belle âme. Alors, je vous invite à venir nous retrouver le 1er octobre, de 10h à midi et de 14h à 18h. Letty commencera par une découverte du chant cygne pour les débutants à partir de 13h30 jusqu'à 15h30. Elle fera sa petite pause. Et puis après, de 16 à 18, elle fera... pour vraiment les personnes qui sont un peu plus signantes, entre guillemets. Et je pense que ça va être très intéressant à découvrir. Mais pas que, on a aussi le centre d'accueil et d'information sur la surdité qui sera là, qui n'est pas assez connu, avec le CICAT. Hein, c'est aussi le centre d'information, j'ai oublié, pardon, le reste, pour les aménagements. On aura Génil, une structure qui est vraiment spécificité aménagement maison. Avec les cubes lumineux, par exemple, les sonnettes de porte, les vidéoportails, enfin, etc. etc. On aura aussi Adrien Soto, qui est la seule auto-école de la région centre, qui est située à Orléans, qui fait les cours en langue des signes, les cours de code en langue des signes, et d'accord. aussi les cours de conduite.
Ok, on peut apprendre à conduire
tout à fait.
En étant
tout
malentendant.
À fait. Tout à fait.
Très bien, je l'apprends.
Et même sourd.
D'accord. Ouais, ok.
Mon ami qui est sourde conduit.
Ok. Et donc effectivement l'idée, alors l'habitacle d'une voiture est déjà un caisson,
tout à fait.
Mais n'est pas étanche à l'extérieur, donc effectivement.
Ils ont des choses, des sens qui se sont développés. Mais lui serait plus à même à vous répondre que moi.
Bien sûr. Oui.
Mais c'est très impressionnant. Moi je l'ai vu faire les cours en langue des signes, c'est waouh quoi. C'est waouh. Puis on aura la chance d'avoir la maison des sourds aussi du Loiret. Les sapeurs-pompiers, normalement, qui seront aussi là voilà, pour faire voir les premiers gestes de secours. Et on aura deux interprètes qui seront sur place aussi, qui vont nous accompagner sur toute la journée. Et puis le matin, ça va être un petit question-réponse-échange voilà, avec des professionnels. Audioprothésistes, orthophonistes, nous-mêmes en tant que voilà, parents d'enfants sourds. Et puis l'association sera là aussi. Et, voilà, on aura plein de choses à faire découvrir. Donc c'est le tremplin, c'est la première fois qu'on l'organise. Et on espère, voilà, avoir du monde. Et puis on aura des petites choses en plus. Voilà.
Revenons sur le chant cygne, et on en parlait pendant la diffusion oui. du morceau d'Oshi. L'idée du chant cygne n'est pas de traduire mot à mot
une
chanson.
Non, c'est vraiment une sensibilisation à la musique avec ce que peut générer la musique. Bien sûr, il y a des signes dedans, bien sûr, ce qui est normal.
L'idée de faire passer signes. Des mots quand même
C'est de faire passer des mots avec les sensations, avec les gestuels, avec le faciès, la façon d'être, la façon de... C'est juste génial, quoi. C'est vraiment à découvrir. Moi, je l'ai découvert au centre de formation à Visuel LSF d'Orléans, auquel j'ai appris, moi, la langue des signes. Et on a eu cette initiation. J'ai trouvé ça, mais alors, très intéressant. Et le faire découvrir, c'est encore... ouais, c'est super, quoi. C'est vraiment super à faire découvrir.
C'est facile d'apprendre la langue des signes?
Je vais pas vous dire oui, parce que c'est pas vrai.
Ouais.
Comme toute langue.
Oui, voilà, l'apprentissage du français au CP, c'est pas forcément évident pour tous les enfants.
Après, il faut pratiquer hein, un petit peu tous les jours.
Ouais. Moi, j'ai la chance. C'est comme une langue étrangère.
Quand on l'apprend pas
dès l'enfance, parce qu'on est touché directement.
Voilà, dès qu'on l'arrête un petit peu, on perd quelques notions. Bon, après, dès qu'on se retrouve confronté avec des personnes qui signent, des personnes signantes, forcément, ça va revenir un petit peu au galop. Puis après, ça va être... Oh, pardon, je suis désolée, j'ai oublié le signe, je me souviens plus. Alors, ça fait rire. Mais du coup, ça permet de dire, faut que je continue. Et puis, c'est pour ça qu'on a envie de faire aussi des ateliers un peu intergénérationnels, entendant sourd, pour garder ce lien. Et puis, pourquoi pas apprendre de nouvelles choses, parce que la langue des signes évolue comme toutes les langues. Et c'est très intéressant. Et nous, c'est ce qu'on a envie de faire partager et puis faire découvrir ce monde du silence, comme on peut dire, ce monde plein d'émerveillement, mais ça reste une personne atteinte de surdité reste une personne à part entière. C'est juste la surdité qui est un handicap, mais pas la personne.
On va y revenir juste après ce petit module. Chaque semaine, la lorgnette recommande un document, un livre, une fiction pour approfondir le sujet qui est traité dans l'émission chaque semaine. Cette semaine, je vous sélectionne 2 minutes d'un extrait qui va ravir les trentenaires qui ont grandi avec la télé dans les années 90.
Eh oui, on utilise l'expression sourd-muet parce que beaucoup de personnes qui n'entendent pas n'utilisent pas non plus le langage parlé, et c'est logique. Quand on parle, en fait, on ne fait que reproduire ce que l'on entend. Un mot rentre par une oreille et file tout droit à l'intérieur du cerveau. Il se fixe dans la zone de l'audition. Puis, les données sont intégrées par la zone du langage. Pour parler, les informations sont ensuite transmises à une sorte de centre de commande qui dirige les muscles de l'appareil phonatoire grâce auquel nous émettons des sons. Maintenant, imaginez que quelque chose ne fonctionne pas au niveau de l'oreille. Le cerveau ne reçoit aucune information, donc la zone du langage n'en reçoit pas. La personne qui n'entend pas ne peut pas utiliser le langage parlé, bien que l'appareil phonatoire fonctionne très bien et que cette personne émette des sons. Donc, Marie, pour utiliser le langage parlé, a suivi une rééducation.
Pendant longtemps, on a considéré les sourds comme des arriérés mentaux. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'abbé de Lépée met au point un langage gestuel en observant deux jumelles qui communiquaient par signes. Avec l'aide de ses élèves, il invente un alphabet et une véritable langue des signes. Son enseignement rencontre un vif succès à travers toute l'Europe et se diffuse jusqu'aux États-Unis.
Qu'a-t-il répondu ?
Monsieur, cela est impossible à traduire dans notre langue. C'est un geste d'esprit.
Mais très vite, d'autres méthodes cherchent à faire parler les sourds à force d'exercices parfois très douloureux. Et en 1880, la langue des signes, alors qualifiée de langue de singe, est interdite. Les sourds sont donc obligés d'apprendre à parler et à lire sur les lèvres. Il faut attendre 1991 pour qu'une loi autorise enfin l'enseignement de la langue des signes. Aujourd'hui, les enfants sourds peuvent intégrer une école bilingue où ils apprennent en même temps la langue des signes et le français. Ils peuvent également suivre une scolarité classique avec des enfants entendants.
Donne-moi un bonbon.
Et pour comprendre la maîtresse, ils lisent sur ses lèvres.
Non, dit Coralie.
Voilà un extrait, donc vous l'aurez reconnu, de Fred et Jamy, c'est pas sorcier, l'émission culte de vulgarisation scientifique de France 3. On entend dans l'extrait, c'est pour ça qu'il m'a semblé pertinent, ça a longtemps été dévalorisé, la surdité a longtemps été dévalorisée, voire complètement
interdite.
C'est assez fou quand on y pense, et ceci étant, contrairement à un handicap physique, c'est un handicap qui ne se voit pas, c'est une maladie qui ne se voit pas, d'où j'imagine beaucoup de confusion et de malentendus, pour le mauvais jeu de mots autour de du handicap. Hein.
Non, mais tout à fait. Il faut savoir que il y a 80% des handicaps qui est invisible. Mm. La surdité en fait partie. Voilà. Grâce à l'abbé de Lépée. Il y a très très longtemps, hein, dans les années 1700, hein,
18e siècle, ouais.
qui lui a créé une école spécifique. Puis après, à partir de 1880, on ne sait pas pourquoi, fallait arrêter. C'était interdit de signer pendant 100 ans. 100 ans s'est écoulé pendant cette période auquel
où le monde de la surdité n'a eu aucun
moyen de communiquer. Fallait qu'ils oralisent. Fallait qu'ils oralisent. Le premier qui voyait signer, ils pouvaient lui couper les mains. Un peu comme les Juifs, voilà, qu'on extrême. Voilà. Bah, là, c'était la même chose, en fait. C'était une tare, c'était.
On l'entend, hein,
c'était
dans
des idiots, c'était des analphabètes, c'était des gens qui ne seraient pas capables de faire les choses, quoi. Mmh. Alors que non, bien au contraire. Et il y a eu le réveil des sourds à partir de 1991, quelque chose comme ça, voilà.
91, oui.
Qui a fait que la langue des signes a été reconnue, et elle est encore reconnue encore plus sur la loi du 11 février 2005, sur la loi vraiment qui dit que la langue des signes française est considérée comme seconde langue. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'a pas assez de classes bilingues, qu'il n'y a pas assez d'adaptations faites en LSF, et j'irais peut-être un peu plus loin, mais faudrait que le gouvernement ouvre les yeux sur les choses, parce que quand on entend le gouvernement qui dit qu'ils vont couper les congés de formation professionnelle, on a des droits à formation, sauf que pour la langue des signes, maintenant, ça va être zéro. Zéro parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de métier.
D'accord.
Donc j'y mets une interprète qui veut faire interprète en LSF, c'est pas un métier.
Faudra qu'elle s'autofinance.
Qu'elle s'autofinance, ouais. Mais avec des prix énormes.
Oui,
un instituteur qui veut avoir une formation langue des signes pour donner les cours dans les Ulis, il ne pourra pas être formé. Bah, je trouve ça juste aberrant.
Mm.
On est en 2022. On coupe ce genre de financement. Je trouve ça... Mon Dieu.
Ça faisait partie des derniers sujets que je voulais aborder avec vous, Carole. Comment se porte, mais vous avez déjà partiellement répondu à la question, la formation, et notamment dans les milieux professionnels. Est-ce que, comme aux premiers secours, qui sont presque une obligation, même si c'est une obligation, même si ce n'est pas tout le temps rempli, j'imagine que du coup, par rapport aux premiers secours, la LSF, c'est dérisoire, quoi.
Ah, mais complètement.
Ouais.
Nos sapeurs-pompiers ont des formations, donc là c'est plus le CIS qui serait plus à même de répondre. Mmh. Mais il y a certains sapeurs-pompiers qui sont formés à la langue des signes, et ce qui est très bien parce que la population vieillit, la population devient de plus en plus en difficulté auditive.
Ouais.
Le fait d'avoir les écouteurs dans les oreilles, les bruits des machines encore, d'aller en discothèque, les bruits super forts. Mmh. Et puis l'âge vieillissant fait que on a ces manques aussi, parce que ce qui est dans la tête des gens, on est sourd. Mais non, on n'est pas sourd. Ça peut vous arriver au cours de la vie, un accident. Vous avez un accident de voiture, la tête tape. Bah, il peut y avoir des séquelles sur l'audition, mais pas que, ça peut être aussi par un médicament, quelqu'un qui fait une réaction allergique à un médicament, ça peut toucher l'audition. C'est des stéréotypes en fait qui sont donnés. Nous on est là pour dire non, mais attendez, vous pouvez devenir sourd à n'importe quel moment au cours de votre vie, petit, moyen, grand. Donc, je dis c'est important de le savoir aussi. On devient pas, on peut avoir une perte auditive, hein, quelqu'un qui va prendre un coton-tige, qui va se percer le tympan, par exemple, par inadvertance, bah, il peut y avoir des séquelles. La méningite peut frapper aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues sourdes parce qu'ils ont eu la méningite étant petits et qu'à l'époque, ils n'étaient pas soignés comme maintenant. Mais la perte auditive, elle peut venir à tout âge.
Et je refais le parallèle avec la formation au premier secours. On aurait tout à gagner à apprendre, à former les gens aux bases de la langue des signes.
Aux bases,
bonjour,
tout à fait.
Comment
bonjour,
ça
merci,
va,
merci, au revoir,
voilà.
Ça va,
est-ce qu'il
mal.
Y a un problème, voilà. Voilà, mal, effectivement.
Il existe un numéro qui s'appelle le 114 pour les secours.
Vous faites auquel, bien de le
rappeler. Les personnes atteintes de surdité qui ne peuvent pas s'exprimer par téléphone, on voit un texto, c'est relié à une plateforme, la plateforme on redirige après. Mais quand les secours arrivent sur place, des fois ils sont démunis parce que malheureusement tout le monde n'est pas formé à la langue des signes. Moi, dans le rêve absolu, ce serait que tout le monde soit formé un minima à la langue des signes, un minima. Juste de savoir dire bonjour, le problème c'est quoi, mal où, parce que c'est ce qu'on va dire en langue des signes. Bah, je trouve que ce serait le béaba. Moi, je suis professionnelle soignante.
De santé, ouais.
Je me suis formée à la langue des signes. Et je peux assister des personnes sourdes en cas de nécessité. Alors, uniquement sur des petites questions. S'il y a vraiment des diagnostics plus importants, c'est le rôle d'une interprète. C'est-à-dire que ce genre de choses doit être donné par une interprète et pas par nous, parce qu'on a le secret professionnel. Mais on ne sera pas aussi précis que quelqu'un qui est vraiment formé, qui est vraiment interprète, auquel c'est son métier. Ça, je tiens à le souligner parce que c'est... on nous dit, c'est pas parce que tu signes. Oui, mais c'est pas parce que je suis signante que je peux tout dire. Donc, je vais dire du basique, un rendez-vous, prendre une prise de rendez-vous, expliquer comment l'examen va se passer, il n'y a aucun problème. Par contre, l'annonce de diagnostic, moi, dans l'établissement où je travaille, je refuse de le faire. Parce que c'est pas mon rôle.
D'où la nécessité de pouvoir former notamment des interprètes. Merci Carole pour cet échange passionnant. On peut rappeler très rapidement les événements que vous allez donc proposer lors de cette journée de sensibilisation.
Eh bien, 1er octobre, rendez-vous à la chaussée Saint-Victor, salle Lagrange, qui sera juste en face de la mairie, de 10h à midi et de 14h à 14h. Chancing 13h30, important, à 18h. Nous, on sera là tout le long de la journée, à vous accueillir, à vous accompagner, à vous proposer des petits stylos langue des signes pour l'association. Si vous voulez nous aider, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan bénévole, n'hésitez pas à nous contacter et à venir nous voir. On a notre site internet et notre Facebook aussi.
Et on mettra ces adresses sur la page de podcast de l'émission. Merci beaucoup Carole Fouché.
Merci à vous.
De l'association Nos Mains Vous Parlent. Et puis bonne journée de samedi.
Merci.
Comme d'habitude, après, à la fin de chaque lorgnette, nous vous proposons un journal de bord. Cette semaine, le journal de bord d'un élu local avec Nicolas Orgelet et Gaëlle Bernard. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle lorgnette. À bientôt.
Journal de bord d'un élu local.
Épisode 58, Loire Vivante, avec
Gilles Deguay.
Yes.
Bonjour Nicolas.
Salut Gaël.
Bonjour Gilles.
Bonjour.
Gilles, t'es notre invité aujourd'hui. Tu t'appelles Gilles Deguay, c'est bien ça? Et t'es représentant associatif au comité de bassin.
C'est ça.
Ouais, alors je sais pas ce que c'est.
Le comité de bassin, alors on a dit qu'on verrait ça peut-être plus tard.
Et aujourd'hui, tu vas nous parler de Loire Vivante.
Alors ça, on va le voir aujourd'hui.
On le voit aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Et c'est quoi? C'est une association?
C'est un mouvement associatif. C'est pas une seule association, et c'est une première chose importante, mais peut-être d'abord il faut dire pourquoi ça s'est fait. Ça s'est fait parce que il y avait sur la Loire un projet de 4 barrages, alors sur la Loire et ses affluents, et ce projet de 4 barrages allait accentuer l'artificialisation du fleuve. Mais comme souvent dans ces luttes-là, ça s'est cristallisé autour d'un barrage avec une opposition d'un certain nombre de gens, et ça s'est étendu après à une réflexion sur qu'est-ce que c'était l'aménagement qui était en route.
C'était à quelle époque ça ?
Un tout petit peu avant les années 90, 87-88, les prémices. Mais les premières luttes, c'est 89-90, et ça a duré toute la décennie. Pour aller vite, et pourquoi ça a laissé des traces, parce que ça fait partie de mouvements sur l'environnement qui gagnent, et quand même franchement c'est pas si souvent que ça, et on a gagné, on a vraiment beaucoup gagné. Il y avait 4 barrages qui étaient prévus, il y en a 3 qui se sont pas faits, et puis surtout ça a probablement changé beaucoup la vision qu'on avait du fleuve. Ça a bouleversé un certain nombre de choses, mais qu'on verra peut-être après.
Oui, le principe, hein, pourquoi parler de Loire Vivante, c'est un peu ça, c'est un peu les combats originels de... aujourd'hui, je suis en charge de la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, qui est une nouvelle manière de voir le cycle de l'eau en pensant dans la gestion de recréer le grand cycle de l'eau. Alors que jusqu'à ces combats de Loire Vivante, dans l'administration, c'était d'abord penser sur comment se répartit les usages de l'eau pour des questions vraiment anthropocentrées pour l'industrie.
Centré
vraiment autour de l'homme et non pas au niveau par rapport au bon fonctionnement de la nature. Et le combat de Loire Vivante, c'est un peu ça. Et là, on lance un cycle de 3 émissions autour de l'eau suite aux sécheresses de cet été. Mmh. Et avant de parler de perspectives, je voulais montrer aussi qu'on a été héritier de combats portés depuis plus long terme. Et Gilles, ça a été quelqu'un de très impliqué dans Loire Vivante.
Très impliqué, très important, c'est pas sûr, mais très impliqué, ça c'est sûr.
Donc tu dis que ça c'est un mouvement associatif qui, pas que associatif, mais un mouvement populaire qui s'est constitué tout au long de la Loire face à des grands projets de barrage, et vous avez gagné à la fin.
Oui.
Ça existe encore aujourd'hui ?
Qu'est-ce que vous avez gagné ?
Alors, on va répondre aux deux questions. Peut-être pour revenir, pour que vous compreniez pourquoi je ne parle pas d'une association. Le projet est un projet global sur la Loire, qui est porté par un établissement qui s'appelle l'EPALA, établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, avec un président emblématique qui est Jean Royer, et qui est un personnage régional en tout cas, et puis national, puisqu'il est... Et cette institution-là, pratiquement toutes tendances confondues, veut absolument construire ces barrages-là, et le projet est très clairement un projet de fournir de l'eau quand il n'y en a pas, ou quand il n'y en a pas assez. Alors, pas assez, on est d'accord, hein, les milieux, ils disent pas ça. Hein. Les milieux, ils s'adaptent quand il y en a, ils s'adaptent pas, etc. Et c'est même ça qui fait leur richesse. Mais pas assez pour les besoins humains. Parce que on est dans une période où déjà on vient d'installer les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, on a construit déjà 2 barrages pour leur fournir l'eau suffisante en étiage pour qu'ils puissent diluer leurs effluents.
Donc Villeray
et Nossac.
Et Nossac, qui étaient déjà construits.
qui sont déjà construits, qui ont été construits par des organismes, et il y a des textes tout à fait explicites des élus du bassin qui disent ben, maintenant qu'on a construit pour la nation, qu'on a offert nos rives, qu'on a tout ça et tout, il faut peut-être nous penser un peu à nous, et donc nous on veut aussi de l'eau, et on veut que vous construisiez pour ça. Là-dessus, il arrive par-dessus une espèce de recrudescence de conscience de la question de l'inondation. Et donc, ces barrages-là, on se voit attribuer aussi une fonction d'inondation, de prévention des inondations.
Écréter un peu le niveau d'eau.
Et puis, toujours un peu la suite, mettez-vous dans, à l'époque, on a de l'eau qui coule, on n'en fait pas grand-chose. Si c'était un lac, on pourrait mettre des pédalos, des machins, etc. Et donc, il y a aussi l'idée qu'on va y développer du tourisme, un certain nombre de choses. Voilà. Et cet ensemble-là va évidemment contribuer à ce que ça soit artificialisé partout. Mais alors, il y a une vision de ça qui existe au niveau de grandes organisations comme France Nature Environnement, le WWF comme s'allie avec FNE, ce qui s'appelle pas FNE à l'époque d'ailleurs, et ils financent un poste d'animation sur tout le bassin. Et donc déjà, on est sur quelque chose d'assez énorme et d'assez nouveau.
Le bassin, ça représente quel...
Ben, ça représente de Nantes au Mont-Gerbier-de-Jonc.
D'accord.
1400 kilomètres.
Okay.
Plus les affluents. Plus les affluents, parce qu'il y a aussi l'Allier, il y a aussi le Cher et tout. Il y a un barrage qui est prévu sur le Cher, un sur l'Allier, un sur la Loire. Et puis, il y en a deux sur l'Allier, je crois. Et comme je l'ai dit, très souvent dans les mouvements, dans ces mouvements importants, il y a d'abord une espèce de haut-le-cœur à un endroit. Et cet endroit, c'est à côté du puits, barrage de Serre de la Fare. À côté du puits, il y a une superbe plage qu'on peut encore aller voir, hein, Serre de la Fare, parce que justement le barrage n'a pas été construit. Il y a des gorges absolument superbes, et c'est l'endroit auquel sont attachés les gens du puits, parce que c'est leur jeunesse, c'est tout. Voilà. Et donc, s'imaginer qu'il va y avoir un barrage de 70 mètres soit de haut, et que leur plage va être 70 mètres en dessous, c'est dur. C'est très dur d'imaginer ça. Et donc il y a un premier mouvement qui se fait là-bas. Là-dessus, occupation, c'était une ZAD avant l'heure. Hein. Ils sont allés s'installer, mais avec des liens avec la ville qui est quand même à 20 minutes quand même au moins, mais qui fait que quand les premières pelleteuses sont arrivées, les gens qui étaient sur place ont commencé à résister, mais les gens qui étaient au puits ont débarqué. Et qu'il y a eu plein de monde devant les pelleteuses, ce qui fait qu'elles sont parties. Enfin, elles sont pas allées beaucoup plus loin.
Donc là, c'est les résidences locales par rapport à un patrimoine qui va être détruit, et par rapport au cycle de l'eau et à notre avenir.
Et ce qui arrive immédiatement, et c'est là une des très grandes forces de ce mouvement-là, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, plus ou moins spécialistes ou scientifiques, qui commencent à expliquer que la façon dont dont on envisage le fleuve est justement celle que tu as annoncée comme étant du petit cycle de l'eau, c'est-à-dire le fleuve, c'est ou bien un endroit où on prend de la flotte, c'est un robinet, ou bien c'est un endroit où il y a trop de flotte, et donc on se protège et on fait des barrages, des digues, des trucs. Et tout d'un coup, on est en train de se rendre compte que cette solution technique est une solution sans issue. Et on va argumenter sur ces questions-là. Sur ces questions-là pour dire les histoires, par exemple, de sécurité sur l'inondation. Dire aux populations que, comme on va avoir fait plein d'éléments techniques, elles seront à l'abri, c'est criminel parce que, comme on n'a jamais de sécurité complète, on désarme complètement les populations qui ne sont plus en alerte par rapport au risque parce qu'ils pensent qu'il n'y en a plus. On construit à des endroits où, franchement, c'est débile de construire. Et puis, quand les choses arrivent, les populations sont pas préparées.
Le jour où une digue casse parce qu'elle était pour une crue vintenale et pas centenale, et qu'on a une crue centenale,
absolument,
par exemple.
Ou parce que il y a 20 km de digue et que c'est extrêmement compliqué d'être sûr que les 20 km de digue sont de la même qualité et tout. Voilà, bon. Et donc, ça pète. Et quand ça pète, c'est la catastrophe absolue, parce que une grosse partie de la sécurité, c'est d'être prévenu.
Mais ça, on sait savoir vivre avec le risque.
C'est de savoir vivre avec. Donc on commence à re-renverser ces questions-là. On re-renverse les questions de solidarité à Mont-Aval, parce que la solidarité à Mont-Aval, c'est pas que Laval paye les déplacements d'église, c'était la grande mode. Quand on mettait une église sous la flotte, on la déplaçait pour qu'elle soit pas sous la flotte. C'est pas ça. C'est être capable chacun de vivre avec le même fleuve et de s'en rendre compte. Et donc, on garde le fleuve tel qu'il est. Toutes ces idées-là se font petit à petit. Avec une particularité, c'est que c'est des pôles associatifs. Donc il y en a un à Nantes, il y en a un à Ancenis, il y en a un à Angers, il y en a un à Tours, il y en a un à Orléans, il y en a deux, un à Nevers, il y en a un sur le Cher, et il y en a un évidemment à côté du Puy. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont des structures assez différentes. Parfois c'est une association qui s'est créée sur place, parfois c'est un collectif d'associations, parfois c'est carrément une fédération régionale, parfois c'est deux personnes autour. Voilà. Parfois c'est une association qui a associé toutes les autres, mais tout ça fonctionne. Alors tout ça fonctionne en partie aussi parce que pour la première fois, je pense, pendant les associations, en tout cas pour moi c'était la première fois, on commence à utiliser des outils informatiques et donc on a commencé à utiliser des mails et à se passer les trucs à toute vitesse et à écrire en collectif sur tout le bassin, ce qui nous a donné une espèce de force incroyable, parce que quand quelqu'un se résistait à un endroit, on était capable à 400 km d'expliquer que c'était en train de se passer et d'élaborer des trucs communs. Et c'est vraiment notre conclusion, c'est qu'il faut combiner tout. C'est-à-dire que oui, il ne faut pas s'interdire surtout pas s'interdire de faire des actions très spectaculaires, mais si on n'a pas en même temps tous les éléments extrêmement techniques qui vont permettre de l'emporter.
Justifier. Et les liens à l'institution.
Et de les rendre. Alors, pour parler à l'institution, il faut parler technique. Et puis, il faut aussi parler à la population, à laquelle il faut parler un peu technique, mais beaucoup aussi de qu'est-ce que ça a comme conséquence. D'accord ? Ce paquet-là, c'est ça qui fait Loire-Vivante, et c'est pour ça que ça a laissé tant de traces.
Et l'Épalage a laissé tomber trois projets de...
L'Épalin n'a pas laissé tomber les trois projets. L'État lui a interdit de les faire.
D'accord.
Pour être plus précis.
D'accord. C'est très clair.
Ouais. Et donc là, on va arriver.
Et l'Épalin a eu de la peine à digérer. Et son héritier, qui s'appelle l'EPL, a toujours de la peine à le digérer.
Mais on va parler de l'établissement public Loire. Et puis on va parler aussi de ce que c'est qu'un comité de bassin par rapport. Voilà, à l'usage de l'eau, et je pense que c'est un peu aussi ce qu'il en reste, la constitution du comité de bassin, et comment on gère l'eau. Voilà.
Et bien, donc, on voit ça dans un prochain épisode, on va travailler... On
fait comme ça, on regarde la suite de tout ça, ouais. Un prochain épisode.
Très bien.
À tout de suite.
Merci beaucoup, Nico. Mmh. Merci, Gilles.
Ça marche.
À la prochaine.
Moi c'est Nico et c'est mon premier mandat.
Ton premier mandat de quoi ?
Je suis vice-président d'une agglomération et co-président d'un groupe écologiste à Blois.
Non, moi je suis Gaël, on est potes, et tu m'as proposé de raconter ce mandat dans un podcast.
Un journal de bord qui témoigne de la vie politique locale au fur et à mesure de l'actualité.
Et on en a déjà fait 60. Vous pouvez les trouver sur toutes les applis de podcast à raison de 3 par mois. Les applis de podcast c'est Deezer, Spotify, Apple Podcast.
Et on est aussi sur la radio locale Studio Zef.
Agitateur de fréquence.
Dans l'émission La Lorgnette.
C'est 91.1, c'est ça ? FM.
Chaque jeudi.
À 17h.
Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao.
Ciao, merci. Ciao, ciao.